Donc bonsoir à tous pour ce septième cours de l'atelier sur art et politique. Et conformément donc au tour résolument cinématographique que prend désormais ce cours sur les rapports entre art et politique, il s'agit de continuer, d'examiner, comme on l'a fait la semaine dernière, les différents cas concrets qui sont posés dans l'histoire du cinéma, de problèmes, on va dire, moraux et politiques, toujours pour utiliser cette étiquette un peu grossière, mais donc les différents cas concrets qui ont pu être posés au cinéma. Ainsi, lors du dernier cours, on avait examiné la question de la représentation cinématographique de la Shoah, telle qu'elle a pu se poser, ce qu'on a vu précisément, à partir et au-delà du travelling de Capot. Donc ça, je ne reviens pas du tout dessus, c'était une problématique propre. Et le cours d'aujourd'hui va essayer de s'enchaîner dessus. Alors thématiquement, ça a l'air voisin, mais vous allez voir, c'est quand même assez différent, en tout cas dans la démarche initiale, puisque le titre que j'ai mis sur le site, c'est « Le cinéma expressionniste était-il nazi ?» Et sous ce titre volontairement provoquant, si ce n'est racoleur, tout est bon pour faire venir des gens, je voulais faire référence à une théorie en fait très célèbre, qui a été beaucoup discutée, voire contestée, en partie pour l'ambition théorique qu'elle affiche, et pour la thèse massive qu'elle prétend soutenir. Et cette thèse, elle est célèbre, puisqu'elle porte sur un cas extrême, celui de la société allemande dans l'entre-deux-guerres, et dont le cinéma, dans sa vogue expressionniste, exprimerait et préfigurerait le basculement dans le nazisme. Alors cette thèse a été soutenue par Siegfried Krakauer. Alors, Krakauer, si ça ne vous est pas familier, ce qui peut largement être le cas, donc il sera bien mis sur le site, mais en attendant, c'est K-R-A-C-A-U-E-R, donc Siegfried Krakauer, qui était un critique et théoricien allemand du cinéma, et qui a soutenu cette thèse dans son ouvrage qui s'appelle « De Caligari à Hitler ». Donc le titre est assez explicite, donc « De Caligari » faisant référence au cabinet du docteur Caligari, dont on va reparler dans un instant, à effectivement l'avènement d'Hitler, et le livre qui est assez important, il fait plusieurs centaines de pages, se termine sur une analyse des films de propagande nazie, qu'il inclut donc dans son histoire du cinéma allemand de l'entre-deux-guerres. Et le sous-titre de ce livre, donc, c'est, on va essayer de comprendre pourquoi, une histoire psychopolitique du cinéma allemand. Et il date de 1947, c'est-à-dire qu'il l'a publié tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. C'était quasiment un ouvrage de commande, effectivement, on lui avait demandé d'écrire quelque chose sur l'histoire du cinéma allemand, et il a très rapidement, comme il avait beaucoup d'archives à sa disposition, il a réalisé ce travail qui, au départ, est aussi une somme. C'est-à-dire que vraiment, il a, de manière assez exhaustive, pris en compte l'intégralité de la production allemande de l'entre-deux-guerres. Et donc, le cours de ce soir va consister à exposer assez précisément la thèse de ce livre, et par conséquent, peut-être plus que d'habitude, risque de tourner un peu à l'exposé dogmatique, ou du moins doxographique. Par ailleurs, il y a un autre défaut dont j'ai conscience à l'avance et pour lequel je présente mes excuses, c'est on va dire l'absurdité relative qu'il y a à parler de cinéma sans passer d'extrait. On n'a pas les moyens de le faire là ce soir. Je tâcherai de compenser, sans y arriver tout à fait, ça va de soi, en mettant sur le site les photogrammes les plus éloquents des films dont on va parler ce soir. Ça, je vais essayer de faire une sorte d'analyse image par image pour envoyer quand même aux séquences dont on va parler. Et donc, si je reprends en deux mots quand même, si j'essaie de montrer le fil directeur qu'on essaye de suivre, le fil directeur du, disons, initié au cours précédent, et qu'il s'agit de prolonger par d'autres éléments de réflexion, par exemple donc ce soir avec la thèse de Krakauer, il s'agit de se poser la question du problème d'une représentation artistique, moralement et politiquement juste, dans le cadre spécifique du cinéma. Autre manière de dire les choses, est-ce qu'il y aurait une problématique spécifique de la représentation artistique lorsqu'elle met en jeu l'image cinématographique? On avait soulevé ce problème-là il y a deux semaines, pour le cas effectivement de la représentation de la Shoah. On va voir qu'ici, d'une certaine manière, c'est encore quelque chose qui va revenir, qui va être exprimé dans la thèse de Krakauer, mais dans une version un peu différente. On va voir que ça va rejoindre malgré tout des choses qu'on a dites il y a deux semaines. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, l'idée générale, pour vous donner une vue d'ensemble de cette thèse, c'est que selon Krakauer, le cinéma donnerait à voir plus que tout autre art, on va essayer de comprendre pourquoi, les valeurs morales et politiques d'un peuple, d'une société. Alors, d'une certaine manière, je vais faire un rappel aussi pour essayer de rassembler les éléments, mais d'une certaine manière, ce n'est pas une thèse nouvelle pour nous, au sens où, on va dire, malgré l'habillage XXe siècle, que va prendre la thèse de Krakauer, parce qu'on va voir que justement, le rattacher, alors il y en a qui vont le rattacher à la psychanalyse, plutôt, ce qui me paraît plus pertinent, à l'évolution de l'histoire de l'art et sa transformation sous l'influence de gens comme Warburg ou Panofsky, sa relation, on va dire, à ce genre de manière d'étudier l'histoire de l'art, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec l'iconographie, voire l'iconologie de Panofsky. Mais le fait de dire justement que les valeurs morales et politiques d'un peuple seraient exprimées dans ses œuvres d'art, ça, on l'avait en quelque sorte, on avait commencé par ça au premier cours. Donc je ne parle pas du premier cours de cette reprise, mais vraiment le tout premier cours de l'atelier, donc en février dernier, puisqu'on l'avait rencontré dans la lettre à D'Alembert, et que c'est même en fait la thèse qui encadre la citation que j'ai mise en exergue quand j'ai présenté l'atelier sur le site. À savoir, je rappelle très rapidement, mais il ne s'agit pas de la réexpliciter, mais c'est pour voir que c'est quand même quelque chose de familier, et qu'il y a quand même beaucoup de points de rapport finalement avec des auteurs classiques chez Krakauer. Cette thèse-là, donc, c'était celle de Rousseau dans la lettre à D'Alembert, au début, lorsque justement il va expliquer, on va dire, le principe général qu'on a étudié, et encore une fois, il ne s'agit pas de le réexpliquer maintenant, mais le principe général que j'avais appelé principe d'agrément, à savoir que les spectacles étant dépendants de leur succès, de leurs conditions de réception, ils étaient condamnés finalement à ne représenter que les préjugés dominants d'une société, et par là les exprimer. Et donc c'est la citation que j'ai mise sur le site pour commencer en fait la description de ce cours. Et ce qu'il y a autour de cette citation, qui par contre ne figure pas sur le site, c'est l'idée sur laquelle enchaîne Rousseau, et qui va être beaucoup plus concrète, qui consiste à dire qu'en fait c'est comme ça qu'on peut expliquer la diversité des programmes et des arts, des spectacles, pardon, pas des programmes, des spectacles et des arts. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une infinité d'espèces de spectacles possibles, pas en tant qu'il y a une infinité possible de peuples. Et notamment, il donne des exemples, et il dit, par exemple, un peuple intrépide, grave et cruel, veut des fêtes meurtrières et périlleuses où brille la valeur et le sang-froid. Un peuple féroce et bouillant veut du sang, des combats et des passions atroces. Un peuple voluptueux veut de la musique et des danses. Un peuple galant veut de l'amour et de la politesse, etc. etc. Donc il y a une infinité, finalement, potentielle de spectacles qui découlent tout simplement la diversité culturelle, on pourrait dire ça comme ça. Et cette idée rousseauiste que les peuples veulent des spectacles qui favorisent leurs penchants, et donc par là, du coup, sont incapables de les corriger, il en faudrait qu'ils aillent au contraire à rebrousse-poil. Cette idée-là, vous voyez bien que chez Rousseau, il y a déjà ce double mouvement de dire donc on peut déduire, d'après les spectacles d'un peuple, ce qu'il est. C'est-à-dire, ce serait en quelque sorte, dis-moi quel spectacle tu regardes, et je te dirai qui tu es. C'est un peu cette démarche-là qu'a Krakauer, on va voir en la spécifiant dans un autre contexte théorique, mais c'est quelque chose de très similaire. Et du coup, la thèse implicite que je veux défendre aussi, que je reprendrai un peu en conclusion, c'est que de la même manière, toute distante que peut avoir l'air l'analyse de Krakauer, il y a cette ambiguïté qui est complètement assumée par Rousseau, qui est à partir de l'idée de dire, comme il y a une interaction finalement entre les valeurs d'un peuple et ses spectacles, certes on peut deviner ce qu'est un peuple, mais du coup aussi on peut juger moralement ses spectacles. De même, on va voir que Krakauer essaye d'avoir un propos qui se veut plus axiologiquement neutre, évidemment, que Rousseau. Il est dans une posture qui se veut d'abord descriptive, mais que malgré tout, en fait, il est rattrapé par cette implication, si vous voulez, de sa démarche, qui est, pour le coup, au contraire, celle que visait directement Rousseau. Mais je reviendrai là-dessus. Disons que c'est en tout cas la thèse que je veux suivre. Alors, pour préciser maintenant en quoi ça va consister. L'exercice auquel s'est livré Krakauer est clairement énoncé dans sa préface. Je vous cite donc la phrase où il explique ça très clairement. « Je suis persuadé que par une analyse des films allemands, on peut parvenir aux dispositions psychologiques profondes qui prédominaient en Allemagne de 1918 à 1933. » Autrement dit, il s'agit pour lui de déchiffrer dans le cinéma allemand de l'entre-deux-guerres ce qu'était le peuple qui allait basculer dans le nazisme. Et donc la thèse de Krakauer va se préciser encore dans l'introduction, en disant qu'en fait, pour lui, finalement, le contenu, la technique même, il va dire, et l'évolution des films d'une nation sont pleinement compréhensibles uniquement avec les schémas psychologiques de cette nation. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agirait même pas de regarder de manière plus pertinente encore que de regarder les écoles artistiques, les influences artistiques, ce genre de choses. Finalement, c'est au contraire par les schémas psychologiques, c'est-à-dire de voir ce qui désigne par là, que l'on peut comprendre l'évolution esthétique d'un peuple, d'une société. Et donc, il s'agit de faire pour lui une sorte d'histoire secrète. C'est l'expression qu'il utilise dans son introduction. C'est-à-dire qu'au-delà donc, des changements économiques, des exigences sociales, des machinations politiques, il s'agit pour Krakauer de faire l'histoire secrète, impliquant les dispositions intérieures du peuple allemand. Alors, là-dessus, il y a une première remarque à faire. C'est que la définition de cette ligne directrice a été et est beaucoup critiquée. C'est-à-dire que c'est un des points d'attaque principaux sur l'œuvre de Krakauer, parce que notamment, justement, il parle de l'âme collective du peuple allemand. Et du coup, en plus, il y a quelque chose de terriblement paradoxal à vouloir faire la critique, on va dire, d'un cinéma qui préfigurait le nazisme et la condamnation qui va avec, en parlant de l'âme du peuple allemand. Et donc, c'est quelque chose qui lui est très souvent reproché. Il se trouve qu'en fait, si on lit près l'introduction, il y a eu des corrections qui ont été faites à la première écriture de cette œuvre. Il est très clair là-dessus. Il le dit à plusieurs reprises de manière différente, mais pour lui, il ne s'agit absolument pas d'un caractère national fixé. Pas du tout. Donc, c'est pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de saisir, je sais pas, l'essence de l'Allemagne ou que sais-je. C'est pas du tout un caractère national fixé. Il s'agit en fait de parler de la mentalité, en quelque sorte, d'une société donnée à un moment donné. Et donc, plus précisément, en fait, il ne s'agit pas de l'âme allemande, mais de l'idéologie des classes moyennes, qui vont porter Hitler au pouvoir. Et ça, ça se perçoit très clairement quand on lit certains points précis, certains chapitres. L'ambiguïté est complètement balayée. C'est pas du tout l'âme allemande. C'est très clair à d'autres endroits, de la classe moyenne. Et donc, contrairement aux reproches qui lui sont souvent faits, Krakauer ne postule pas du tout un caractère national, etc., essentiel. Et il le dit aussi, c'est qu'il faut davantage interpréter justement ce qu'on appellerait à ce moment-là des caractères nationaux comme des effets et non des causes. C'est-à-dire que c'est finalement au contraire ce qui va résulter de l'étude d'une culture à un moment donné. On va pouvoir décrire effectivement et donner tel ou tel trait datable, historiquement datable. Et donc c'est des effets de l'analyse, pas du tout à ces postulats ou sa cause. Deuxième remarque, de la même manière, par rapport à la démarche que nous avons d'habitude dans ce cours, il faut être conscient qu'il y a, en apparence du moins, une première différence, qui est qu'il ne s'agit pas, pour Krakauer, de dire que c'est le cinéma qui a rendu le peuple allemand nazi. Donc, ce n'est pas du tout une démarche, qu'on pourrait dire, a priori, platonicienne, au sens où, justement, il ne s'agit pas d'abord de se soucier de l'effet des œuvres sur celui qui les regarde ou qui les écoute. Donc le cinéma est responsable, il est en quelque sorte l'image, le signe à déchiffrer d'un désarroi et de valeurs qui sont celles de ce peuple. Et donc en apparence c'est une démarche différente qui inverserait la lecture morale et politique habituelle que nous faisons dans ce cours. En apparence, donc, il y a inversion, puisque ce ne serait pas l'influence que les œuvres d'art auraient sur les hommes, et donc ce qui les rendrait dignes d'éloge ou de blâme, mais l'influence qu'un peuple a sur son art, qui est ici l'objet d'études. Donc, il s'agit moins effectivement de regarder comment les œuvres d'art ont modelé un peuple, qu'au contraire, d'après les œuvres d'art, comprendre ce qu'est ce peuple, et donc plutôt comprendre comment des dispositions morales et psychologiques, encore une fois, qui correspondent à un moment donné de l'histoire, ont modelé un courant artistique. En l'occurrence, l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme cinématographique, ça va toi, ici. Et donc, cette différence aurait pour première conséquence ce que je soulignais tout à l'heure, à savoir que le discours de Krakauer serait axiologiquement neutre. Axiologiquement neutre, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne prétend pas porter un jugement moral, il ne prétend pas désigner des valeurs dans ses œuvres d'art, dire ce film-là est bien, celui-ci est mal, du moins a priori. Il ne s'agit pas de condamner l'expressionnisme allemand, mais d'en faire un objet d'étude privilégié pour comprendre l'histoire du XXe siècle. Et c'est cette absence de jugement axiologique qui a pu faire dire, c'est une manière de qualifier qu'on trouve assez fréquemment sur les commentaires de Krakauer, qui a pu faire dire que Krakauer se livrait à une sociologie du cinéma, dans le sens assez large du terme. Et donc on le rattache à cette idée-là, sociologie du cinéma, puisque précisément, il est dans une sorte d'objectivation, neutralité, par rapport à ces films. Cependant, ce qu'on va essayer de voir, c'est que la posture de Krakauer est plus ambiguë que cela, ou du moins plus complexe. Et je me contenterai pour l'instant de relever deux éléments qui, à mon sens, réduisent considérablement cette différence qu'aurait cette posture théorique par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Premièrement, c'est qu'on va voir qu'en fait, il y a bien la résurgence d'un jugement moral et politique chez Krakauer quand il analyse les films. Je vous donnerai des cas concrets, mais que si, ça, c'est quelque chose qui revient, malgré tout. Donc un jugement moral et politique. Et deuxième chose, deuxième élément, on va voir que la théorie de Krakauer se fonde en partie sur la disparition de la notion d'auteur au cinéma. Et que la disparition de la notion d'auteur au cinéma, c'est quelque chose qui, pareil, à mon avis, n'est pas axiologiquement neutre. C'est une manière aussi de juger l'art cinématographique et de le juger du point de vue des valeurs. Alors, le point de départ théorique, si vous voulez, de Krakauer, avait été énoncé déjà avant, dans une œuvre antérieure, plus courte, qui s'appelle « L'ornement de la masse », qui date de 1927, donc 20 ans avant. Et c'est vraiment l'unité entre les différentes œuvres de Krakauer, c'est cette perspective qui consiste à dire que le lieu, donc ça c'est une citation de Krakauer, hein, le lieu qu'une époque occupe dans le processus historique se détermine de manière plus pertinente à partir de l'analyse de ses manifestations discrètes de surface qu'à partir des jugements qu'elle porte sur elle-même. Autrement dit, ce qu'il affirme, c'est que donc on peut comprendre plus facilement ce qu'est véritablement une époque à partir de, je cite, ses manifestations discrètes de surface qu'à partir du discours qu'une époque tenait sur elle-même. Autrement dit, et donc c'est pour ça, on voit bien en quoi on a pu, de manière grossière, attacher la posture théorique de Krakauer à une forme d'application de la psychanalyse, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, justement, on va analyser les choses en termes de symptômes, ce genre de choses. Ça, je ne vais pas reprendre, c'est pas du tout mon optique ici. Mais en tout cas, le postulat qui fonde la théorie critique de Krakauer, c'est que, justement, pour comprendre une époque, il faut regarder ce qui peut sembler superficiel, les détails, l'involontaire, le non-intentionnel, et donc les objets privilégiés d'études ne vont pas du tout être les œuvres produites par les intellectuels, par exemple, dans une tentative de, ressaisissement de soi, en pleine conscience, etc., mais au contraire, les produits de l'industrie culturelle. Et parmi ces produits de l'industrie culturelle, Krakauer met évidemment le cinéma, mais aussi les spectacles de variété, la radio, etc. Et donc il range le cinéma dans les produits, l'industrie culturelle, on va voir ce que ça implique. Et à partir de là, il y a effectivement une manière de s'attacher aux détails qui, pour saisir donc, on va dire, la mentalité d'une société, qui rattache clairement Krakauer à Panofsky, mais aussi un peu indirectement, à Warburg et à Cassirer. C'est des grands ponts, mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on lit sur Krakauer, et c'est une manière aussi, c'est d'une certaine manière ce que lui aussi revendiquait. C'est-à-dire qu'il était en correspondance beaucoup avec Panofsky, qui est célèbre dans l'histoire de l'art pour avoir écrit beaucoup de choses, mais notamment un essai sur la perspective, essai d'interpréter justement ce que signifie la perspective en tant que forme symbolique, c'est-à-dire en tant qu'elle exprimerait, en tant qu'ici la forme artistique exprimerait en fait un moment de l'esprit, c'est-à-dire en fait quelque chose qui serait historiquement l'expression d'une mentalité, pour faire de manière un peu vague. Et donc, il y a la même méthode, au sens où on va essayer de mettre en relation les formes artistiques avec les mentalités, mais en partant des détails ou d'objets extrêmement spécifiques. Et ainsi, Krakauer justifie sa démarche, dans l'introduction, par une réflexion sur la nature même du médium cinématographique. C'est-à-dire que dans l'introduction, Krakauer part de l'idée qu'il y a une grande admiration dans le monde qui s'est faite portant sur le cinéma expressionniste allemand. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été mondialement reconnu. C'est un moment de renouveau du cinéma, qui est un moment, on va dire, pour l'Allemagne d'un vrai courant cinématographique extrêmement reconnu, influent, etc. Et Krakauer souligne qu'on a beaucoup écrit là-dessus, mais que cette littérature qui était, on va dire, d'essence esthétique, s'occupait des films comme s'il s'agissait de structures autonomes. Comme s'il s'agissait effectivement de manifestations, de volonté pleinement dans la maîtrise. Alors qu'au contraire, pour lui, la vraie question, c'est de savoir en quelque sorte pourquoi ce cinéma-là est advenu en Allemagne à ce moment-là. Donc au contraire de le penser de manière autonome, il s'agit de le penser dans sa relation avec la société allemande qu'il a vue naître, en cherchant du coup ce que ça signifie, ce que l'un pour l'autre signifie. Et pour soutenir ce, on va dire, ce point, enfin, cette manière d'aborder les choses, il va avoir deux arguments. Et le premier, qui pourrait paraître paradoxal, en ce que, justement, si on cherche l'expression de quelque chose dans une œuvre qu'il aurait produite, ça serait davantage dans le sens où il s'en serait responsable et où il aurait voulu. Au contraire, Krakauer va souligner que si les films sont un objet d'étude privilégié, si le cinéma, effectivement, a une spécificité, c'est au contraire parce qu'ils ne sont, parce que les films ne sont jamais un produit individuel. Les films ne sont jamais un produit individuel, et il reprend le mot d'un réalisateur soviétique, Poudovkine, qui, effectivement, parlait très souvent du caractère collectif du cinéma, en disant que la production, cinématographique se confondait, en ce sens, avec la production industrielle. Et donc, ça, on peut le rattacher justement à quelque chose qui revient souvent dans les discours des réalisateurs, et notamment dans ceux de Poudovkine, qui est le rôle décisif des techniciens. C'est-à-dire qu'au moment, effectivement, où on tourne un film, c'est une série de micro-mesures, de micro-décisions artistiques qui doivent être prises, et qui dépendent, en quelque sorte, d'unités de production différentes. Et donc le film incarne en fait un mélange d'intérêts et d'inclinations hétérogènes. C'est-à-dire que le travail d'équipe dans le domaine cinématographique tendrait justement à exclure le maniement arbitraire du matériel cinématographique. Ce n'est pas une volonté qui va, selon son libre arbitre, effectivement, décider de l'agencement de l'ensemble des éléments. C'est quelque chose d'absolument immaîtrisable pour un individu. Et donc, en fait, tout va fonctionner comme un système de contrepoids où il s'agit en fait finalement d'arriver à un compromis, et c'est pour ça, finalement, que ça va représenter quelque chose d'une mentalité collective. C'est-à-dire que dans cette espèce d'affrontement, en tout cas de compromis automatique, mécanique, qui se fait dans la production d'un film, ça va supprimer les particularités individuelles des différents agents qui concourent au fait de faire un film. Et donc, en supprimant, voilà, ça va en quelque sorte, non pas niveler, mais du moins indifférencier les décisions, enfin le résultat, pardon, qui va être obtenu. Et donc ça va supprimer les particularités individuelles en faveur des traits communs. C'est-à-dire que finalement, va demeurer de manière clairement dessinée, non pas la personnalité de tel et tel individu, mais au contraire, ce qui a rendu le compromis qui est un film possible, à savoir ce que ces personnes avaient en commun. Et donc, du coup, effectivement, leur appartenance à, on va dire, à une société donnée à un moment donné. Ça, c'est le premier argument que Krakauer donne dans son introduction. Et le second, c'est que donc les films sont collectifs du point de vue de la production et le sont du point de vue de la réception. C'est-à-dire que les films, alors on pourrait dire ça de tout spectacle, évidemment, même de toute œuvre d'art, sauf que ce que veut dire Krakauer est plus spécifique que ça, c'est-à-dire que, selon lui, les films s'adressent à une multitude anonyme. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, il parle d'un objet précis, il parle des films populaires. Alors, effectivement, ça laisse de côté, on va dire, une certaine tendance du cinéma, une certaine production extrêmement restreinte qui existe, mais qui n'est pas l'objet dont parle Krakauer, qui est effectivement, en fait, le cinéma, d'ailleurs, dont on parle au sens courant du terme. C'est-à-dire le cinéma qui est effectivement diffusé dans les grandes salles, qu'on édite après nous, par exemple, maintenant en DVD, etc. C'est-à-dire les films dont on parle. Et dans ce cas-là, ce que soutient Krakauer, c'est que les films populaires peuvent être considérés comme devant satisfaire aux désirs des masses. Et là, il fait une courte analyse du fonctionnement d'Hollywood en disant, justement, en s'opposant au propos que Hollywood ferait l'opinion. Il dit effectivement, des fois, il peut y avoir des films qui peuvent révéler la volonté de tel ou tel studio. Mais en fait, ce qui se passe la plupart du temps, ce qui se passe réellement, c'est que du point de vue du fonctionnement économique, Hollywood ne peut s'offrir le luxe d'ignorer la spontanéité du public. Le fonctionnement des grands studios, c'est ne peut jamais faire abstraction, effectivement, de ce qu'attend le public. Et donc, de fait, ce qui est confirmé effectivement par les études, les screen tests, ce genre de choses aujourd'hui, et qui existe depuis très longtemps, c'est que l'épée de Damoclès que sont les recettes des box-office pour l'industrie du film est telle qu'il s'agit pour les producteurs, de manière mi-consciente, d'être toujours au plus près des désirs du public. Or, ces désirs-là, justement, sont pensés non pas comme l'élection d'un public particulier, mais au contraire, justement, comme, encore une fois, ce qui va unir de manière collective, mais complètement anonyme, une masse. C'est toujours cette idée que, justement, il s'agit d'éliminer les particularités pour trouver ce qu'il y a de commun. Et donc, pour Krakauer, le public américain est au contraire, à longue échéance, ce qui détermine la production des films hollywoodiens, et non l'inverse. C'est-à-dire que sur telle ou telle production, on pourra repérer effectivement des divorces entre l'opinion dominante et certains produits d'Hollywood, mais sur le long terme, c'est absolument impossible parce que ce n'est pas viable économiquement. Et ça, c'est pareil, ça fait directement écho à quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà dit, c'est un moment très,